Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les vendredis 17 et samedi 18 juin prochains, le château de Chantilly servira de cadre à de très grands feux d'artifice. Et ces feux de Chantilly, c'est le nom du spectacle, ont donné des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Chantilly, ce sont évidemment les feux d'artifice, nous allons y venir. Mais c'est aussi tout le reste. Les anciens jardins des princes de Condé, avec leurs terrasses et leurs pièces d'eau magnifiques, les grandes écuries et le musée vivant du cheval, un vrai bonheur. Sans oublier le musée Condé, évidemment, à l'intérieur du château reconstruit pour le duc d'Aumale, un grand legs fondé sur un héritage, lui-même appuyé sur un crime, comme je vais vous le raconter.
Eh ben ça promet. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions, vos souvenirs et vos idées aussi. Tout cela sur le site internet d'Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission.
Une émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire avec un petit H, je précise, et je me dis chaque fois que ce nom lui va comme un gant.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Ce vieux monsieur très digne, la paupière lourde et la barbiche en pointe toute blanche, ce vieux monsieur qui marche à pas compter mais très droit, c'est Son Altesse Royale, le duc d'Aumale. Il vient d'avoir 71 ans en cette année 1893 et il se laisse guider à travers le musée de Versailles par le conservateur de l'époque, monsieur de Nolhac. Le duc d'Aumale est un des fils du roi Louis-Philippe, paix à son âme. Sa fortune est immense, son domaine de Chantilly mondialement connu. Il est membre des trois académies, il est très respecté à Paris, mais à la vérité, il est surtout célèbre pour un exploit militaire, accompli un demi-siècle plus tôt, exactement le 16 mai 1843. À cette époque, le tout jeune prince, il avait 21 ans à l'époque, participe avec le grade de maréchal de camp, on dirait nous aujourd'hui général de brigade, il participe à la conquête de l'Algérie quand, à la tête de 500 chasseurs, des cavaliers légers, il s'est rendu maître de la ville nomade, vous savez, une espèce d'énorme campement qui se déplace, cette ville d'un des principaux ennemis de la conquête française en Algérie, l'émir Abdelkader. La prise de la Smala d'Abdelkader, qui sera peinte par Horace Vernet sur une toile gigantesque, le plus grand tableau du monde. Cette prise de la Smala d'Abdelkader, ça constituera par la suite l'attraction principale des salles d'Afrique, créée par Louis-Philippe au château de Versailles. Et naturellement, c'est cela que 50 ans plus tard, le vieux prince est venu revoir. Je cède la parole au conservateur de l'époque, à Nolhac. « Quand je recevais le duc d'Aumale à Versailles, écrit-il, je m'arrangeais toujours pour finir la promenade sur les salles d'Afrique, restées intangibles. Le prince s'arrêtait longtemps devant la prise de la Smala d'Abdelkader. Il y contemplait un jeune capitaine à la tête de ses chasseurs d'Afrique et l'illustre soldat repartait content, assuré du souvenir immortalisé de sa jeunesse et de sa gloire. » Voilà un petit trait assez touchant de la discrète, de la secrète vanité du duc d'Aumale qui, par ailleurs, était l'homme du monde le mieux élevé. Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans était né à Paris le 16 janvier 1822. Il est à ce moment-là le quatrième des cinq fils du duc d'Orléans. Il est troisième dans l'ordre... Non, lui est... Alors, c'est le duc d'Orléans qui est troisième. Lui est donc 3 et 4, septième dans l'ordre de succession au trône. Ce duc d'Orléans, son père, c'est le fils, vous savez, de Philippe Égalité, hein, ce prince révolutionnaire et régicide. Autant dire que chez les Orléans, on protège volontiers les libéraux et qu'on serait favorable à une monarchie constitutionnelle, bourgeoise, à l'anglaise. Le personnage important pour le destin du jeune prince, c'est moins son père, Louis-Philippe d'Orléans, que son parrain. Ce parrain dont il va hériter et qui n'est autre que Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, le dernier des princes de Condé. Je dis le dernier parce que Louis-Henri avait un fils, le jeune duc d'Enghien, mais vous savez que Napoléon a tué le duc d'Enghien en le faisant fusiller dans les fossés du château de Vincennes. Dès lors, le dernier Condé a reporté son affection sur ce filleul Orléans, sur ce petit duc d'Aumale, et vous allez voir dans quelle proportion tout ça va déterminer l'existence du duc d'Aumale. Parce que cette vie bascule tout d'un coup À l'été 1830, le duc d'Aumale, à ce moment-là, a 8 ans et demi. Et d'un seul coup, là, comme ça, surviennent deux événements qui transforment sa situation. D'abord, en juillet, c'est la révolution des Trois Glorieuses qui propulse son père sur le trône. Le duc d'Orléans devient roi des Français sous le nom de Louis-Philippe Ier et désormais, le duc d'Aumale sera donc fils de roi. Et puis, dans la foulée, en août, le 27 août, meurt son parrain qui, en lui léguant une fortune énorme en domaine, en œuvres, en or, fait de lui le plus riche héritier de France à 8 ans et demi. Comment est-il mort, ce prince de Condé? Eh bien, précisément, c'est là que le bât blesse. Du reste, j'aimerais qu'on s'y attarde un petit moment.
La marche hongroise tirée de la damnation de Faust d'Hector Berlioz sur Europe 1.
En ce matin du 27 août 1830, dans le beau château de Saint-Leu, tout près de Chantilly, les pendules qui sont parfaitement réglées sonnent 8 coups. Le sieur Lecomte, il est valet du prince de Condé depuis très longtemps, depuis l'époque de son émigration, le sieur Lecomte essaie d'entrer dans la chambre de son maître comme il le fait chaque matin, mais, chose inhabituelle, la porte a été verrouillé de l'intérieur. Le valet est intrigué, il frappe, il insiste, sans succès. Il est inquiet, évidemment, alors il prévient le médecin de la maison, le docteur Bonny, qui, après quelques essais infructueux de son côté, décide de faire enfoncer la porte. Et là, stupeur, horreur, le prince de Condé, 74 ans, est retrouvé pendu à l'espagnolette de la fenêtre, donc la poignée, si vous voulez, pendu par un double mouchoir, alors que, fait notable, ses pieds touchent parfaitement le sol. Je précise que les deux mouchoirs ont été noués entre eux par un nœud de tisserand. Or, le prince, à la suite d'une blessure de guerre, n'avait plus de doigt à la main droite et il avait également le bras gauche invalide. On savait que le dernier des Condés, qui était très choqué par ce qui était en train de se passer, là, par cette révolution des Trois Glorieuses, on savait que le prince était en train de faire ses bagages pour s'en aller rejoindre en exil le vieux roi Charles X. Mais enfin quand même, de là à se suicider, lui qui disait encore 12 jours plus tôt « Seul un lâche se donne lui-même la mort ». Pourtant, pas de doute, la porte de sa chambre était bien verrouillée de l'intérieur. Alors, c'est une énigme de chambre close, cette histoire, évidemment. Mettant l'énigme de côté, les enquêteurs dépêchés sur place par le nouveau roi concluent au caractère hautement improbable d'un suicide. Peu importe, leur avis est négligé et le tribunal de Pontoise conclut qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Vous imaginez le scandale. Ça commence à faire pas mal de remous, la rumeur s'amplifie et devant cette rumeur qui gronde, on nomme tout de même un juge d'instruction, monsieur de la Huproie, qui est un magistrat tout à fait intègre. Son enquête sur place va durer 4 mois. Or, la Huproie comprend très vite, au vu des éléments matériels et psychologiques, que la thèse du suicide ne tient pas. Il cherche dès lors des suspects, et des suspects, il en trouve. Il en trouve notamment un magnifique, en la personne de la compagne du défunt, une certaine baronne de Feuchères.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et dans son récit sur Europe 1, Franck revient sur les circonstances de la mort du dernier prince de Condé.
Oui, je fais un petit résumé pour les retardataires. Le dernier prince de Condé, donc le père du duc d'Enghien qui avait été tué sous Napoléon, meurt en 1830. On le retrouve pendu à l'espagnolette de la fenêtre de sa chambre. La chambre est fermée au verrou de l'intérieur. Donc on pense, enfin il peut paraître possible qu'il s'est suicidé, sauf qu'énormément de détails matériels, sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder évidemment, laissent entendre que ce suicide a été arrangé et qu'en fait il s'agirait d'un crime maquillé en suicide. Le juge d'instruction envoyé sur place, qui s'appelle monsieur de la Huproie, commence à se poser des questions et ses doutes se portent, on va dire qu'il a un suspect dans l'esprit, et que c'est une courtisane ramenée d'Angleterre par le prince et à laquelle il a fait épouser pour lui donner un statut l'un de ses féaux, le baron de Feuchères. Cette dame s'appelle donc la baronne de Feuchères. En quelques jours, le juge de la Huproie acquiert la conviction que cette femme est coupable. Il établit même comment elle s'y est prise dans le détail avec la complicité de son amant, qui est un gendarme. Il découvre aussi le tour de passe-passe assez ingénieux du reste qu'ils ont utilisé. Ils ont pris un grand lacet, etc., qu'ils ont passé dans l'interstice de la porte pour arriver à fermer le verrou de la chambre depuis l'extérieur. Dès lors, vous pensez que le juge va évidemment en tirer des conclusions, qu'il va faire arrêter Madame de Feuchères. Eh bien, en vérité, c'est pas si simple. Il se trouve que la baronne de Feuchères est assez proche du nouveau couple royal, ce couple royal qui s'est installé donc sur le trône depuis un mois à la faveur de la Révolution de Juillet. On sait par exemple, et la Huproie ne l'ignore pas, que cette baronne de Feuchères a favorisé la désignation du jeune duc d'Aumale comme légataire universel du prince de Condé. On sait que la nouvelle reine, Marie-Amélie, lui en sait gré. Elle le lui a du reste écrit par deux fois. On sait que le nouveau roi Louis-Philippe lui-même s'est adressé à elle deux jours avant le prétendu suicide et dans des termes qui sont quand même très clairs. « Empêchez, madame, empêchez à tout prix le départ du prince », a écrit le nouveau roi. Or, on sait aussi que le prince en question, Condé, avait l'intention de modifier son testament, probablement en faveur du petit-fils du roi Charles X, parti précipitamment pour l'exil. De là à conclure qu'on a gentiment poussé le vieux prince vers la tombe pour l'empêcher de commettre une indélicatesse en déshéritant son filleul. Il n'y a qu'un pas, un pas que la justice se refuse absolument à franchir. Le 3 juin 1831, alors que M. de la Huproie s'apprête à renvoyer Mme de Feuchères et son complice devant une cour d'assises, le procureur général s'annonce en personne à son domicile. Et il surprend la famille, il surprend Huproie en train de dîner avec sa femme et sa fille. « Votre rapport ne verra pas le jour », lance le procureur général. « Des raisons d'État s'y opposent. » C'est ainsi, en échange de la nomination de son gendre comme juge tutélaire au tribunal de la Seine, M. de la Huproie est mis à la retraite d'office. Et la chambre d'accusation, dès le lendemain matin, pourra conclure au suicide du dernier prince de Condé. Ouf ! Pour la nouvelle famille royale, l'essentiel est sauf, le petit duc d'Aumale va pouvoir hériter tranquillement de l'immense fortune de son parrain, à commencer par un fastueux domaine qui s'appelle Chantilly. Nous allons y venir à ce domaine et vous raconter évidemment toute son histoire depuis que le jeune duc d'Aumale en a hérité. Une révolution en 1830 avait donné la couronne aux Orléans, une autre révolution en 1848 la leur retire. Pour Louis-Philippe et les siens, le temps est venu à leur tour de prendre le chemin de l'exil. Au moment où son père quitte la partie, donc en février 1848, le duc d'Aumale, encore tout auréolé de cet exploit en Algérie dont je vous ai parlé, le duc d'Aumale n'a que 26 ans. Il rejoint ses parents et le reste de la famille en Angleterre. Il vit à ce moment-là près de Londres, à Twickenham, dans une demeure charmante qui déjà avait servi de refuge à sa famille et qui s'appelle du reste Orléans House. Aumale est rongé par la nostalgie, même s'il refuse de le reconnaître. Il recrée là-bas, à Orléans House, une sorte d'atmosphère qui est faite à la fois de souvenirs de ses campagnes, de souvenirs militaires, mais aussi une atmosphère orientalisante, un petit peu comme si Aumale n'avait jamais quitté l'Algérie, finalement. Il y collectionne les peintures et surtout les livres. Il faut dire qu'après les armes, sa passion va à l'histoire et qu'il peut prétendre, sans peine, figurer parmi les bons historiens de sa génération. Or, ce qui bientôt va donner une importance inédite aux collections du duc d'Aumale, c'est la soudaine réalisation de sa fortune foncière. En effet, le gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est en train à ce moment-là de devenir Napoléon III, ce gouvernement prend un décret assez obscur en janvier 1852, décret au terme duquel les biens meubles et immeubles détenus en France par les Orléans vont devoir être vendus. Alors les Orléans, évidemment, à commencer par Aumale, qui du fait de son héritage est de loin le plus riche, les Orléans ont un an tout rond pour vendre tout ça, pour vendre tout ce qu'ils possèdent en territoire français. Le jeune duc s'arrange pour faire racheter Chantilly par des hommes de paille, vous savez, par des prête-noms. Il gardera ça sous la main, mais pour le reste, il n'a pas le choix. Il doit vendre, et ça remplit d'un seul coup ses coffres de millions de francs or. 34 millions de francs or, 1954, c'est une fortune absolument colossale. Dès lors, le soldat, historien et collectionneur va commencer par racheter les collections familiales pour éviter qu'elles ne soient dispersées. Et puis, il en viendra à des domaines de collection qui l'intéressent plus personnellement. Il faut savoir que son père, donc l'ancien roi Louis-Philippe, est mort en 1850 et qu'aussitôt, Aumale a acquis la succession en 1851 la célèbre bibliothèque Standish que le roi avait hérité lui-même d'un grand collectionneur anglais, Frank Hall Standish. Cette bibliothèque, c'est considérable, hein, ça représente 3500 volumes exceptionnels, 3500 volumes dont 250 incunables. Le duc d'Aumale rachète aussi au prince de Salerne, à son beau-père, quelques 72 tableaux majeurs, dont la Madone de Lorette de Raphaël. On peut dire que dès lors, une vocation de grand collectionneur est né et pendant les deux décennies que va durer son exil, le duc d'Aumale ne cessera d'acquérir et d'accumuler les trésors du patrimoine, des trésors que nous pouvons, nous, aujourd'hui, visiter au château de Chantilly.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes sur Europe 1, au cœur de l'histoire du duc d'Aumale, Franck.
Ce duc d'Aumale qui, donc, pendant son exil, n'a cessé d'acheter des trésors. Hein. Vous savez qu'en 1855, par exemple, il acquiert les très riches heures du duc de Berry, ce fabuleux manuscrit entièrement illuminé qui nous donne un aperçu incroyable sur les grands châteaux du XVe siècle. En 1891, beaucoup plus tard, il sera toujours aussi passionné de miniatures puisqu'il acquerra le livre d'heures d'Étienne Chevalier. Mais ça nous entraînerait ailleurs. Toute cette invraisemblable collection, elle constitue donc le fonds du musée Condé à Chantilly. Alors, le prince ne va pas rester en exil indéfiniment. La défaite de Napoléon III en 1870 et la chute du Second Empire sonnent pour le duc d'Aumale et pour sa famille la fin de l'exil. Il se précipite en France, il demande sans l'obtenir l'honneur de combattre pour le gouvernement de défense nationale, on est en pleine invasion prussienne, et puis à la faveur des fameuses élections législatives de février 71, qui sont destinés, vous savez, à constituer une assemblée qui puisse ratifier l'armistice, eh bien, le duc d'Aumale se fait élire député de l'Oise, un député véritablement épris d'idées démocratiques. C'est le fond même de l'état d'esprit du duc d'Aumale, même si évidemment tout le monde ne le comprend pas. Très vite, il choisit de renouer avec la carrière des armes. Il est réintégré en février 1872, c'est-à-dire quand même 24 ans après son départ pour l'exil. Ça a été une longue parenthèse, on peut le dire. Et à l'automne 1873, le fait d'être le plus ancien dans le grade le plus élevé lui vaut l'honneur redoutable d'avoir à présider le procès de Bazaine. Vous savez, Bazaine considéré comme le traître qui a livré littéralement Metz à l'ennemi. Et c'est le duc d'Aumale, le président de l'exécutif, le chef de l'exécutif, Thiers, insiste absolument. Et c'est donc le duc d'Aumale qui va présider ce tribunal. En récompense, on lui donne le commandement militaire de Besançon. Il va diriger le 7e corps d'armée de 74 à 79. On peut dire que là, c'est quand même une belle époque pour le duc d'Aumale. Il est reconnu par le nouveau régime. En 71, grâce à son ancien précepteur, il est entré à l'Académie française. En 1880, il va entrer à l'Académie des Beaux-Arts. On peut dire que l'un comme l'autre lui conviennent parfaitement. Et c'est l'époque, bien sûr, de la reconstruction du château de Chantilly dont nous allons parler tout à l'heure. Mais À mesure que le régime s'ancre dans la République, évidemment, l'opposition monarchiste se fait plus dure. On peut dire qu'il y a un climat un peu de guerre larvée entre les deux camps, entre républicains et monarchistes. Or, par sa famille, par ses relations, Aumale est rangé presque malgré lui dans le camp des monarchistes. Et au moment où meurt le comte de Chambord en 1883, c'est son propre neveu, le fils de son frère aîné, c'est le comte de Paris qui devient le prétendant au trône. Vous comprenez que ses relations avec la République à ce moment-là deviennent de plus en plus difficiles. Il le prend mal du reste. Et début 84, il fait une très forte attaque de goutte. On pense même à ce moment-là qu'il pourrait mourir, le duc d'Aumale. Son infernale inquiétude, c'est ce que va devenir son domaine de Chantilly. En effet, à ce moment-là, il n'a plus d'enfants. Il se demande s'il doit léguer le domaine à la France, mais s'il le lègue à la France, à quel régime, puisqu'on ne sait pas encore si la République est vraiment installée, etc. Finalement, alors il faut savoir aussi d'ailleurs que pendant tout ce temps-là, le mouvement monarchiste est de plus en plus actif en France. Faut pas oublier qu'on est à l'époque du boulangisme, etc. Donc le duc d'Aumale va décider de léguer son domaine à l'Institut. Mais entre-temps, il connaît une nouvelle désaffection, il connaît un nouvel exil, parce que son neveu a donné une grande réception, le comte de Paris a donné une grande réception, à laquelle il a reçu tout le corps diplomatique. Ça a été très mal pris, évidemment, par les hautes autorités de la République, qui ont voté la fameuse loi d'exil du 11 juin 1886, qui a priori ne vise que les aînés des familles ayant régné sur la France, mais en fait, le duc d'Aumale est un peu mis dans le même sac, il est bientôt exclu de l'armée, il fait une lettre ouverte au président de la République, qui lui vaut finalement d'être expulsé, c'est de nouveau l'exil. La Belgique, la Grande-Bretagne. C'est à ce moment-là que le duc d'Aumale transforme son legs en donation sous réserve d'usufruit, et tout ça au profit de l'Institut de France.
Maria Callas sur Europe 1, adieu notre petite table, tirée de Manon, l'opéra de Jules Massenet.
Ah oui, on est en plein dans cette atmosphère de l'époque. Alors, aussitôt après le flash de 14h, nous allons évoquer, en compagnie du directeur général de la Fondation du domaine de Chantilly, et en compagnie d'un artificier, d'un pyrotechnicien qui fait partie de l'équipe du spectacle dont vous parliez tout à l'heure, Julia, nous allons évoquer les très riches heures, non pas du duc de Berry, mais bien du duc d'Aumale et du domaine de Chantilly.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1. 13h30, 14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Bruno Horry Lavollée, qui est directeur général de la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly.
Autrement dit, le patron de Chantilly.
Exactement.
Merci Bruno Horry Lavollée d'être des nôtres cet après-midi. Vous dirigez donc l'ensemble des institutions qui se trouvent là sur le domaine, c'est-à-dire le musée Condé, bien entendu, les grandes écuries des princes de Condé, qui sont aujourd'hui le musée vivant du cheval, l'hippodrome aussi.
Non, L'ensemble, Chantilly, c'est une destination qui contient aussi un hippodrome, une forêt, des hôtels magnifiques.
Un hippodrome où va avoir lieu bientôt le prix de Diane, du reste, le 12 juin prochain.
Voilà, et le prix du Jockey Club le 5 juin. Ouais. Et donc, l'Institut a confié à cette fondation le musée, le château, son parc, ou ses jardins, parce qu'il y a plusieurs jardins dans le parc, et les grandes écuries avec le musée vivant du cheval.
Alors, nous avons vu que le pauvre duc d'Aumale a eu un mal fou avec la République, évidemment, avec ce nouveau régime. Au début, il rentre après le Second Empire, lorsque son exil arrive à son terme. Il rentre donc en 1870. Il connaît quelques très belles années et puis le voilà qui doit repartir pour l'exil. En fait, il ne va pas y rester très longtemps, disons-le. Grâce à l'Institut, précisément, dont il avait fait le légataire de ce domaine de Chantilly, il va pouvoir assez vite rentrer en grâce. Et d'ailleurs, son retour sera couronné, si j'ose employer l'expression, par son entrée à l'Académie des sciences morales et politiques, ce qui est une sorte de pardon donné par la République.
C'est un peu dans un ordre différent. Il était déjà membre de deux académies et les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques l'ont élu et ensuite ils sont allés voir le président de la République en disant mais ça ferait vraiment désordre, une séance de réception
sans le récipiendaire.
Voilà. et en réalité, surtout après ce don du domaine fait à l'Institut qui avait recueilli un assentiment général de la nation, c'est à l'unanimité que le gouvernement, que le Conseil des ministres a voté le texte permettant son retour.
Ce qui va permettre au vainqueur de la Smala d'Abdelkader de passer tranquillement ses dernières années en France. Il meurt en 1897. Alors, au moment où il meurt, le domaine de Chantilly a retrouvé tout son éclat. Il faut vous dire que ça n'a pas toujours été le cas, bien entendu, et que le château tel que nous le voyons, c'est le château qu'a voulu le duc d'Aumale sur les ruines de l'ancien palais des Condés. Le premier projet, c'était un projet assez étrange, de Duban, si je...
Oui. Alors, faut d'abord dire qu'après la Révolution, c'était en triste état, puisque le grand château des Condés avait été rasé, qu'il ne restait que le petit château Renaissance, et que le parc était à l'abandon, que les parterres, le nôtre, avaient été quasiment supprimés.
Donc le château en tant que tel, le bâtiment, avait beaucoup souffert de la Révolution, ou en tout cas de la vente, en fait.
C'est ça. Et des entrepreneurs avaient vendu les pierres, grâce auxquelles beaucoup de maisons à Chantilly se sont construites. Et donc, on avait rasé jusqu'au niveau sur lequel avait été construit le château des Condés, qui était les soubassements du château médiéval, et avec les tours rondes plongeant dans les douves qui restent encore aujourd'hui celles du château médiéval. Et c'est là-dessus que le duc d'Aumale reconstruit. Alors, j'aime beaucoup cette histoire qui est un peu celle de l'histoire de France, où thèse, antithèse, synthèse, où on démolit pour reconstruire quelque chose qui reprend dans le passé. C'est pas par hasard qu'un Orléans a fait cela.
Et un amateur d'histoire et de passé, et qui connaissait tellement bien les différents styles du patrimoine. Alors, son architecte, c'est Honoré d'Armet, c'est le...
Voilà, il y a un premier projet avec Duban, puis...
Donc Duban, le grand homme du néo-gothique.
Voilà, et puis ça ne débouche pas. Et une rencontre avec Daumet, où c'est un peu le coup de foudre, en tout cas là, le sentiment de pleine correspondance entre pourtant ce grand seigneur de famille royale d'un côté, et cet homme d'origine modeste, certes pris de Rome, mais venu du peuple, qui est Daumet.
C'est une vraie rencontre.
Je crois que de deux personnes qui ne se connaissaient pas avant, sur la recommandation d'un académicien ami du duc d'Aumale.
D'où l'aspect un peu particulier de ce château, de Chantilly aujourd'hui, qui n'est pas du tout évidemment un grand château classique comme on serait en droit de l'attendre de la demeure des Condés, et pour cause.
C'est plutôt un château qui cite l'architecture Renaissance de différents lieux, dont certains lieux qui avaient appartenu à la famille Montmorency ou aux familles ayant vécu à Chantilly. C'est quand même Daumet a vécu la contrainte de respecter le plan triangulaire du château médiéval. Donc il épouse les contours du château médiéval, et surtout Daumet a génialement relié le petit château Renaissance qui était sur une île voisine, mais dont on avait comblé la séparation avec la grande île du château médiéval. Et la liaison entre les deux, c'est vraiment...
C'est
parce que c'est une couture qui ne se voit pas.
Les jardins ont été rétablis dans leur splendeur à l'époque.
Et le duc d'Aumale a notamment reconstruit les parterres, le nôtre. Il n'a pas pu reconstruire tout le grand parc des Condés parce qu'il y avait une ville dessus, la ville de Chantilly.
Bien sûr, ouais.
Donc il ne reste à travers la ville. Il y a ce potager des princes reconstruit par Yves Bien-Aimé qui reconstruit une partie du parc, mais sur une petite surface. Il y a au bout de la ville le pavillon de Mans, qui était le pavillon qui relevait les eaux, mais sur toute une partie du parc, donc ce n'était pas possible. Et puis sur une autre partie, avant le duc d'Aumale, à l'ouest avait été construit un jardin anglais dans le goût de l'époque qu'il a conservé.
Et puis évidemment, ce découpe sur le ciel de Chantilly, cette extraordinaire construction des grandes écuries, qui alors elles sont bien 18e, sont ce qu'il y a de plus monumental au monde dans le genre, on peut le dire.
Elles sont réputées les plus grandes écuries du monde, mais ce qui est important, c'est qu'elles sont un temple du cheval. C'est que quand on voit ce bâtiment extraordinaire, finalement, il nous communique ce que le cheval contient d'universel. Le cheval, il relie les temps, les civilisations, les hommes. Encore hier, nous accueillions le Premier ministre coréen et nous l'avons accueilli avec deux cavalières. Et qu'a fait le Premier ministre? Il est allé tapoter le cou du cheval. Le lien a été fait grâce au cheval. Donc le cheval, c'est quelque chose de sacré et on a construit pour lui un temple.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Trompette, timbales et hautbois signé Lully, Franck sur Europe 1.
Mais oui, c'est la fête, c'est Chantilly, on est véritablement là sur dans des lieux qui ont toujours été voués à la fête. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Julia, les 17 et 18 juin prochains, c'est très bientôt là maintenant, vont avoir lieu les Feux de Chantilly. C'est sous-titré duel pyrotechnique parce que l'idée est tout à fait excellente. On a pris deux très grands artificiers que sont Joseph Couturier et Fabrice Soulier et on leur a demandé en quelque sorte de faire un duel, de montrer ce qu'ils pouvaient faire de plus fort. Vous imaginez ce que ça peut donner. Et il se trouve que Fabrice Soulier est avec nous. Merci beaucoup d'être venu nous lever un coin du voile sur ce que vous allez faire au cours de ces deux soirées.
Ah ben c'est un vrai challenge que j'ai proposé à Joseph Couturier de changer nos casquettes de confrères en tenue de duelliste pour montrer notre savoir-faire. L'idée est de proposer un spectacle vraiment ambitieux au cours duquel chacun va pouvoir présenter sa propre manière de faire, sa signature avec des choix
avec j'imagine des choses extrêmement nouvelles. Vous avez dû aller dans ce qui se fait de plus singulier, de plus neuf en matière de pyrotechnie.
Nous avons poussé nos limites plus loin qu'à nos habitudes. Là, nous nous orientons vraiment vers un spectacle très ambitieux. Tout d'abord, en installant le feu d'artifice au cœur du public. Ça, c'est une grande nouveauté.
Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont au milieu, c'est ça?
Oui, tout à fait. Il va y avoir du public réparti côté château de Chantilly et de l'autre côté, au fond du parc, ce que nous appelons Vertugadin. Et ça, c'est absolument inédit. Nous avons écrit le feu en tenant compte de ça, de cette
double perspective,
perspective de ces points de vue différents. Et du coup, on a essayé d'avoir une cohérence tout le long du spectacle pour que celui-ci soit appréciable d'un côté comme de l'autre.
Et ça va donner, j'imagine, lieu à une véritable émulation entre vous deux.
Ah oui.
Vous savez déjà ce que votre concurrent, si je puis dire, ou partenaire vous réserve ?
Ah, pas tout. Nous avons gardé quelques bottes secrètes. Il y a eu forcément un échange pour être sûr d'avoir un bon rythme tout le long du spectacle, pour privilégier surtout une grande variété, aussi bien sur le choix des musiques que sur la manière de travailler les tableaux.
Les deux spectacles seront identiques ?
Oui, tout à fait. Les deux spectacles seront identiques. Avec vraiment en priorité un spectacle qui se veut grand public, populaire, et durant lequel nous avons cherché avant tout à nous faire plaisir et à montrer ce qu'on peut faire de mieux.
Donc, est-ce que nous sommes toujours en première place, les Français, dans ce domaine de la pyrotechnie, etc. Pendant très longtemps, on a quand même été le grand pays du feu d'artifice, je pense à la fin du 19e, au début du 20e siècle.
Oui, alors là, plus au niveau de la fabrication des feux.
Ah non, ça
voilà, maintenant c'est anecdotique en France. Mais pour ce qui est du design...
La créativité,
oui. Oui, nous sommes très très bien placés. Nos feux sont appréciés à travers le monde. Il y a une vraie manière de travailler, d'écrire les feux en France, où on privilégie la finesse d'écriture, la cohérence entre les musiques utilisées et les effets déployés, la manière de travailler le rythme. Et on fait bien souvent, on inspire des designers étrangers. Et il n'est pas rare qu'on vienne, que des firmes étrangères nous demandent d'écrire, de chorégraphier leurs feux.
Bruno Horry Lavollée, vous êtes partie prenante à cette aventure ?
Ah ben, nous le sommes à plein parce que voilà, une fête comme celle de ces deux soirs, 17 et 18 juin, c'est une fête où le château de Chantilly est dans sa splendeur, où il vit comme il doit vivre, ce parc immense. Il est fait, d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur toutes les gravures anciennes, il y a beaucoup de monde, il est fait pour les fêtes, il est fait pour ces rendez-vous un peu magiques, il est fait pour mélanger les arts, comme ce sera le cas. Le feu d'artifice mélange la musique et la pyrotechnie, et ici elle se mélange au jardin, au reflet sur l'eau, des jardins et à la vision du château et à tous les autres plaisirs qui ponctueront.
Alors, le parc et le domaine de Chantilly sont faits pour le feu d'artifice. Est-ce que votre feu d'artifice est fait pour Chantilly ? Vous l'avez adapté à l'esprit des lieux ?
C'est un point de départ. Avoir absolument le site en tête pour savoir comment le mettre en valeur. C'est l'écrin du feu, en gros. Et notre l'objectif est d'utiliser cette scène naturelle, de la mettre en valeur. Le décor est déjà planté, nous n'avons qu'à placer nos effets effectivement en jouant avec les reflets. C'est une première approche, ça peut être une première possibilité, mais nous avons également une ouverture monumentale. Travailler le feu d'artifice, une ouverture de 300 mètres, ça pose des choses,
c'est pas rien. Les feux de Chantilly, c'est le 17 et le 18 juin, donc dans le domaine de Chantilly.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et vous l'avez maintenant compris, vendredi c'est Chantilly avec Franck Ferrand sur Europe 1.
Mais vous avouerez qu'il n'y a rien de plus léger.
Écoutez, moi
finalement,
je serai présente les 17 et 18 juin. Ah oui, ça donne envie.
On adore ça en plus. Moi, alors il se trouve, ça c'est très personnel, mais il se trouve que j'ai une folie pour les feux d'artifice. J'ai toujours adoré ça.
Mais ça fait rêver. Hein.
Ça doit être lié à des frustrations d'enfance parce qu'on n'avait pas toujours le droit d'y aller.
Je vais contacter vos parents en antenne.
Vous pouvez le faire à l'antenne parce que je crois que mon père est à l'antenne comme tous les jours.
Bon,
je ne l'ai jamais salué, mais j'en profite. Tiens.
Exactement.
Grâce à vous, Julia. Alors, vous étiez en train de me dire pendant la publicité, Fabrice Houllier, que maintenant on est à l'heure de la participation et de l'interactif. Hein, donc, vous avez demandé au public de participer carrément au programme du feu d'artifice.
Oui. Ça, c'est une vraie première mondiale. Nous avons mis en ligne un simulateur qui a permis au public de participer à la création d'un feu. Chacun a eu l'occasion, à l'aide de ce simulateur, avec une gamme de produits qui a été la même pour tout le monde, sur la même durée, la musique de son choix, de créer son propre feu d'artifice. Et le plus beau feu a été retenu et sera tiré sur les deux soirs.
Voilà, bah écoutez, ça promet tout ça. Alors, revenons, si vous le voulez, non peut-être pas au duc d'Aumale lui-même, j'en ai déjà pas mal parlé, on pourrait faire des émissions entières, mais à sa collection. On peut voir dans ce musée Condé de Chantilly des merveilles incroyables. Ça aussi, c'est un feu d'artifice d'un autre genre, en quelque sorte, Bruno Horry Lavollée.
Et vous avez raison, notamment pour cet aspect profusion, puisque l'accrochage est celui du 19e siècle, avec des tableaux qui couvrent tout le mur. Alors, c'est vrai, beaucoup de gens passent devant le château ne savent pas que dedans, il y a un des plus beaux musées de peinture du monde. Ensuite, ils voient ce musée de peinture. Ils passent peut-être par le cabinet des livres, mais beaucoup ignorent que donc ils sont aussi passés près de la deuxième plus belle collection de livres anciens et de manuscrits du monde. Ils n'ont pas vu aussi qu'il y avait plus de 1500 dessins. Alors, sauf en ce moment où nous avons une exposition des dessins de Clouet, il y en a une bonne centaine. Dans le monde, il y a 600 dessins de Clouet. Il y en a 350 à Chantilly.
C'est incroyable.
On en montre un peu plus de 100 dans cette exposition-là. C'est un journaliste a écrit, c'est le trombinoscope de Catherine de Médicis. Oui. C'est toute la cour une facture de dessin merveilleuse.
J'ai écrit une saga romanesque il y a quelques temps sur la Renaissance et j'avais tout simplement sous les yeux, quand vous parlez de trombinoscope, tous ces portraits de Clouet pour avoir exactement à l'esprit à quoi ressemblaient mes différents personnages. C'est exactement ça. Alors, le mécène d'aujourd'hui ne s'appelle plus Duc d'Aumale, c'est l'Agacan, en fait.
C'est le prince Agacan, son altesse l'Agacan, qui, en effet, depuis 2005, est le président de la fondation que je dirige. Car même lorsque il a été sollicité pour être le mécène de la restauration du château de Chantilly, il a dit d'accord, et je crois qu'aujourd'hui, il est probablement le plus gros mécène de France. Quel mécène a apporté 40 millions d'euros à un monument au cours des dernières années en France, en étant suivi et accompagné par l'État, la région et le Conseil général, à hauteur presque égale.
C'est faramineux comme aide.
Le château de Chantilly en avait besoin. On peut dire qu'après depuis le Duc d'Aumale, il n'y avait pas eu de restauration de cette ampleur.
Une seconde renaissance, en quelque sorte, pour Chantilly.
Tout à fait, qui est nécessaire pour franchir les siècles, comme l'a voulu le Duc d'Aumale dans sa donation.
Est-ce que le prince Agacan s'intéresse à titre personnel à tout ça? Parce qu'on voit bien qu'effectivement, sa générosité est immense et que son intervention à Chantilly a été déterminante. Mais est-ce que vous travaillez avec lui sur le sujet?
Mais énormément, parce qu'il est un grand spécialiste de la chose culturelle à travers le monde. Il habite tout près, mais il réalise des projets de restauration dans 26 pays du monde, depuis les remparts d'Alep en Syrie à telle forteresse médiévale au Pakistan. Et il a vraiment une vision sur comment doit être restauré un monument, comment il doit être géré. Il a aussi créé un des plus grands prix d'architecture du monde. Il sait ce que c'est. Et donc, il nous consacre de l'attention, du temps, et il apporte une vision. Et cette vision, c'est l'idée que la restauration patrimoniale doit être aussi au service d'un projet économique qui engendrera les revenus grâce auxquels...
Pour le rendre autonome, en quelque sorte, c'est ça.
Créer une machine qui pourra franchir le temps parce qu'elle est productive elle-même des moyens de ces restaurations futures.
Mais le projet économique en question, il est fondé sur les visiteurs?
Alors, bien sûr qu'il est fondé sur les visiteurs, mais il est aussi dépendant de chaque...
Je pose la question avec une pointe d'inquiétude parce qu'il me semble que une des grandes difficultés qu'auront à gérer les sites patrimoniaux dans un immédiat avenir, c'est l'afflux de masse quasiment ingérable de visiteurs.
Mais à Chantilly, nous avons encore beaucoup
de marge. Oui.
Dans le parc, on peut multiplier par 10, c'est sans problème. Dans le château, par 2, par plus que 2 à certains moments de l'année. Mais je prends l'exemple de la maison de Sylvie. Donc c'est notre
Trianon. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, voilà,
c'est un pavillon, une fabrique, mais une grande fabrique. C'est vraiment comme notre Trianon au bout de l'étang de Sylvie. On est en train de la restaurer. Une restauration très soigneuse. On reconstitue des cordons qui tressent le fil d'or et le fil de soie. On refait des appliques qui avaient disparu, mais on avait des vieilles photos, donc on les fait reconstruire. Mais en même temps, cette maison de Sylvie, nous voulons en faire un lieu de fête qui pourra être loué par des entreprises, des particuliers. Nous aménageons à côté les dépendances qui permettront d'y faire aisément une fête, l'environnement agréable pour pouvoir prendre l'air quand la fête vous a fatigué. Et donc, en même temps que se fait cette restauration patrimoniale, nous construisons la petite entreprise Maison de Sylvie, ouverte à la location pour événements.
Bravo Bruno Horry Lavolé et merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation du Domaine de Chantilly. Les Feux de Chantilly, ce duel pyrotechnique assez spectaculaire, auront lieu les 17 et 18 juin, à Chantilly même. Et puis tout près de là, au Palais Impérial de Compiègne, nous faisons souvent des petits clins d'œil à Compiègne, auront lieu le samedi 2 juillet, les promenades musicales de Compiègne. Vous êtes habitué maintenant à ce rendez-vous. Elles sont cette année sous l'égide du grand, de l'irremplaçable, du merveilleux Beethoven. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Pour finir cette semaine en beauté, on va prendre soin de nous avec un kiosque consacré à la médecine douce. Dans un premier temps, on va évoquer les 12 solutions anti-déprime qui vont nous permettre d'aller mieux, puisque c'est la fin de l'année et beaucoup d'entre nous sont très fatigués. Vous allez le voir, on sous-estime trop souvent les effets des huiles essentielles, des plantes, mais également de l'acupuncture. Et puis, on vous donnera tous les conseils pour enfin trouver le sommeil. Vous en avez marre de regarder Histoire Naturelle ou les informations en plein milieu de la nuit? On a la solution à partir de 15h sur Europe 1. C'est un kiosque spécial bien-être dans un instant et on attend tous vos témoignages. Faustine.europe1.fr, Franck.
Merci Faustine, moi je dors comme une souche. À lundi, Julia.
Je vous embrasse, bon congé, fin de semaine. À lundi.